Bonjour. Jean-Marc avait enseigné sur le livre de Ruth. On va rester dans ce livre et j'espère que vous allez pouvoir glaner un petit peu aujourd'hui. Et j'ai intitulé cette prédication et l'Oscar du meilleur second rôle est attribué à, je ne sais pas si pour ceux qui regardent à la télévision, les histoires de cinéma, Oscar ou César, vous choisissez celui que vous préférez, hein, c'est égal. Et en lien aussi avec un verset du Nouveau Testament, qui est Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. J'ai choisi ce titre parce qu'on a toujours l'habitude de s'arrêter sur les principaux personnages de la Bible. En l'occurrence sur Ruth, puisque c'est l'héroïne du livre de Ruth. Mais aujourd'hui, je voulais m'arrêter sur une personnalité que l'on pourrait qualifier de second rôle, c'est-à-dire Noémie. Personnage discret et rarement mis en lumière. Est-ce qu'on a déjà entendu prêcher sur Noémie ? J'étais à Genève l'autre week-end pour apporter cette parole et c'est pareil. Personne n'a jamais entendu quelque chose sur Noémie. Je me suis dit, ben, ça tombe bien. On va essayer de découvrir cette personnalité étonnante. Juste pour des... Est-ce que quelqu'un ne connaît pas le livre de Ruth ? C'est juste pour... D'accord, donc Ruth, c'est un livre de l'Ancien Testament. C'est une histoire qui se passe au temps des juges, c'est-à-dire après Moïse, après quand le peuple d'Israël est dans sa terre et Dieu donne des juges pour diriger le peuple régulièrement, parce que régulièrement le peuple s'éloignait de Dieu. Dieu devait laisser, ça ouvrait la porte à des jugements de toutes sortes, et à cause de cela et au travers de cela, le peuple revenait à Dieu, se repentait. Et ça a été des années, des décennies comme ça, où chacun faisait ce qui lui plaisait avant de revenir dans la pensée de Dieu. Et c'était l'époque qui précédait le temps où Israël en a eu marre de tout ce système-là et a dit à Dieu, je veux un roi. Et Dieu a dit, ben, je te donnerai un roi, mais tu verras ce que ça veut dire. Donc voilà, historiquement parlant, et le livre de Ruth, c'est l'histoire d'une famille, un couple avec deux enfants, à une période justement de jugement de Dieu, avec une famine sur la terre où ils étaient en Israël, qui ont décidé de partir, de s'expatrier pour aller chercher la prospérité. Et il s'est passé plein de choses qu'on verra à ce moment-là. Hein, voilà, c'est un petit peu l'espace. Je voudrais aussi peut-être aborder ce temps de prédication en vous donnant deux points qui sont un petit peu des clés de compréhension, des clés de réflexion. Le premier point, c'était quelque chose que j'avais reçu dans le cadre d'une formation en relations d'aide au niveau professionnel, c'est-à-dire non chrétien, qui nous avait enjoint de regarder une personne comme un trèfle à quatre, donc avec quatre pôles. Le premier pôle, on pouvait y mettre les besoins physiques, c'est-à-dire corporels, matériels. Le deuxième pôle, les besoins psychologiques. Le troisième pôle, les besoins sociaux. Et le quatrième pôle, les besoins spirituels. Et dans le monde non chrétien, quand on parle de spirituel, on ne parle pas forcément de foi en Dieu. On parle de quelque chose où on recherche du sens à ce que je suis en train de vivre. Et c'est ce que nous vivons aussi naturellement dans notre vie, nous, avec Dieu. Et ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que il nous enjoignait de faire le travail, de prendre les quatre besoins spécifiques de la personne, d'une personne, pour le mettre dans son contexte, dans son environnement. Et c'est bien souvent là que nous avons un souci. Je vais vous donner un exemple. Le week-end dernier, ma belle-fille, qui est infirmière dans un EHPAD, me parle d'une dame qui est là, installée dans une chambre, je ne sais pas, je suppose, de 15 mètres carrés à peu près, avec du personnel, de l'animation, de la sécurité. Et cette personne se plaint tout le temps, ça ne va jamais. Alors, promptement, on est un petit peu dans la situation action-réaction, où il n'y a qu'à Faucon, je ne sais pas si vous connaissez hein, la phrase, mais t'as qu'à faire ça. Mais il faut qu'on fasse ça. Hein, c'est ce qu'on appelle le yaka faucon. Et en fait, on aurait pu dire à cette dame, oui, mais je ne comprends pas pourquoi vous vous plaignez. Enfin, vous voyez, vous êtes en sécurité, vous êtes bien, il y a du personnel, il y a tout ce qu'il faut. Mais pourquoi vous râlez, enfin, quand même? Et on peut avoir des réponses comme ça, presque incongrues dans une situation. Et en fait, l'environnement de cette femme va nous faire comprendre pourquoi elle est malheureuse. Elle a vécu une bonne partie de sa vie dans un appartement de 240 mètres carrés au boulevard des Tranchées, c'est-à-dire dans les beaux quartiers de Genève. Voilà, c'est un exemple pour vous dire pourquoi cette personne agit, réagit, dit des choses quand on ne tient pas compte de l'histoire de la personne, de son environnement, on a si souvent des réponses totalement inadaptées, voire blessantes. Et on est là et on se dit, mais ils ne comprennent rien. Ça a dû vous arriver. Hein. Je ne vais plus en parler parce que de toute façon, on ne me comprend pas. Mais parce que ma situation à l'instant T, elle correspond à une histoire de vie. Et là où j'en suis, il y a un environnement, ça veut dire quelque chose. Et je crois que dans nos relations sociales, normales, les uns avec les autres, professionnels, mais surtout aussi dans l'Église, apprenons à faire cet exercice-là. Et vous découvrirez des choses passionnantes. Mais ce n'est pas naturel. Parce que, naturellement, on a tellement envie de répondre aux besoins de l'autre. Parce que c'est chrétien, quoi, hein. L'autre petite clé que je voulais vous donner pour écouter cette histoire, c'est que Noémie n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Elle dit des choses, peu de choses, mais en fait, il faut écouter tout ce qu'elle ne dit pas. Écouter les silences, écouter un écho. C'est aussi un petit travail que je vais vous demander de faire. Nous sommes donc en présence d'une famille juive vivant au temps des juges. Il y avait une famine, alors le couple et leurs deux enfants ont décidé d'aller chercher la prospérité dans un autre pays. Il n'y a rien de mal à ça pour aller chercher la prospérité dans un autre pays. C'est une brûlante actualité aujourd'hui. Et dans cette histoire du livre de Ruth, chacun a un nom, les lieux ont un nom, et chacun de ces noms et de ces lieux vont avoir une signification particulière. Le mari est père des deux enfants, Élimélec veut dire « mon Dieu est roi ». Nous sommes au temps des juges. Le nom qu'on lui a donné à Élimélec, en écho, veut dire « j'ai compris qu'au-delà des juges, en ligne directe, mon Dieu et mon roi. » Ça voulait dire quelque chose, c'était important. Noémie, son épouse, la femme dont on va étudier la personnalité aujourd'hui, ça veut dire gracieuse, beauté. Ses enfants sont nés dans une époque. On plante le décor, là, un peu du cinéma. Mon Dieu est roi. Une situation spirituelle, un état spirituel positif, heureux. Une jeune fille, un bébé qui s'appelle Gracieuse. Les parents devaient être heureux, contents. Quelques 20 ans plus tard, ils se marient. 15-20 ans plus tard, ils ont deux garçons. L'un s'appelle maladie et l'autre épuisement. Maladie, épuisement. Dans quel état physique, psychologique, spirituel pouvait être cette famille pour prénommer leurs deux garçons comme cela? C'est un temps de famine. On considère ainsi que dans ce temps-là, il y avait un désespoir physique, matériel, psychologique, social et spirituel. Ils habitaient Bethléem, la maison du pain. Cette maison, ce village où on aurait dû trouver la prospérité, la bénédiction de Dieu, le pain de Dieu, à la fois le pain pour le corps, mais le pain spirituel pour l'âme. Et c'était vide et la famine. Dans ce contexte désastreux, Élimélec emmène femme et enfants dans un pays plus prospère que le leur. Le problème est que cette famille appartient au peuple d'Israël, au peuple des promesses faites par le Dieu, qui est l'Éternel, celui qui fait grâce si on se repent et celui qui pourvoit aux besoins, parce que c'est le nom de l'Éternel. Je suis l'Éternel qui pourvoit. Qu'ils viennent d'une ville qui s'appelle Bethléem, la maison du pain, et qu'il leur était interdit d'aller en Moab, c'est-à-dire de l'autre côté du Jourdain, parce que dans Deutéronome 2, Dieu dit à Israël, « Je ne te donnerai rien à posséder dans ce pays, car c'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. » Tu n'as pas à aller dans cette terre-là leur prendre quelque chose. Je te l'interdis. Nous avons là un cumul de raisons suffisantes qui auraient dû incliner leur choix différemment, mais cela n'a pas été le cas. Plusieurs années plus tard, Noémie se retrouve veuve, son mari Élimélec est décédé, Mahlon et Kilion, les deux enfants, sont morts, et elle se retrouve seule avec deux belles-filles étrangères. Toutes les trois aussi démunies l'une que l'autre, la sort des femmes était très difficile à l'époque quand il n'y avait pas de mari ou de fils pour voir à leurs besoins. Le nom des deux belles-filles de Ruth, de Noémie, était Ruth, qui veut dire compagne, et Orpa, qui veut dire un peu volte-face. Les Moabites avaient pour dieu principal un dieu qui s'appelait Kemosh. Je ne sais pas s'il était moche, mais il s'appelait Kemosh. Et ça veut dire le subjugueur, celui qui asservit. Voilà le contexte dans lequel cette femme veuve se retrouve avec ses deux belles-filles. On va lire au chapitre 1, les versets 6 et 7, et 8 et 14. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Et 8 et 14, Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Souvenez-vous, Orpa, volte-face. Ruth, compagne. Noémie est arrivée au comble du désespoir. Elle touche le fond, comme on le dit. Un peu comme ce fut le cas dans la parabole du fils prodigue. La seule petite lueur d'espoir est cette information qui lui parvient, que Dieu a visité son peuple et lui a donné du pain. Radio Bethléem lui est parvenue. La Bible ne nous dit pas ce qui se passe à ce moment-là dans son cœur. Nous le saurons plus tard. Mais nous pouvons le constater au travers de ses actions. Elle se lève, elle sort et elle se met en route pour retourner dans son pays, le pays de la promesse. Elle part avec ses belles-filles et il se passe des choses bien étranges. Elle leur parle de son Dieu, l'Éternel, et elle leur tient un bien étrange discours. Elle aurait très bien pu leur dire « Vous venez avec moi, la vie va être difficile, vous allez arriver dans une autre culture, vous êtes des étrangères, vous vous rendez compte de toute la difficulté que ça va représenter. » Mais non, elle leur dit des choses autres. Elle leur parle de son Dieu. Elle leur parle de sa loi. Si elles vont dans ce pays-là, il y a la loi sur le rachat par le plus proche parent, c'est-à-dire se marier avec quelqu'un qu'elles ne choisiront pas, afin d'assurer une descendance et la pérennisation du peuple d'Israël. En fait, que fait-elle ? Elle les enseigne dans la loi. Elle les enseigne sur la porte étroite de l'obéissance à la parole de Dieu apportée par Moïse. C'est surprenant, sa manière de parler et de dire les choses. Cette femme qui s'est éloignée de Dieu avec sa famille, qui fait tout un travail à l'intérieur d'elle-même, qui produit une conversion, hein, un retour sur soi-même et un retour vers Dieu, qui là leur annonce des choses inattendues. Pourquoi ça pourrait être inattendu? Parce qu'en fait, au temps de Noémie, l'enseignement était réservé aux hommes. Elle aurait très bien pu faire la route avec ses belles-filles et attendre d'arriver en Israël et de trouver un homme qui puisse enseigner la loi à ses belles-filles. Mais elle l'a fait d'elle-même, directement. Son cœur était tellement décidé à entrer dans la vocation de son Dieu. Son retour à son Dieu lui avait donné une ferme assurance de ce qu'elle devait faire. Quelque part, elle brisait les codes. Certains diront, mais il n'y avait pas d'homme, elle n'avait pas d'autre choix. Hein? J'ai tellement entendu ça. Je ne crois pas que c'était le cœur de Naomi. Je crois qu'elle avait vraiment vécu quelque chose de très profond avec son Dieu. Et cela avait profondément marqué son identité en tant que fille de Dieu, femme de foi. Il y a une autre femme dans le Nouveau Testament qui a brisé les codes. Souvenez-vous, Marthe et Marie. Jésus arrive avec ses disciples, il y a du monde, il faut faire à manger. Marthe s'occupe de toute l'intendance et Marie, elle va s'asseoir au pied de Jésus. Et sa sœur lui dit, non, mais quand même, tu pourrais venir au lieu d'être là, c'est pas ta place. Ta place, c'est d'être dans ton rôle de femme, de pouvoir aux besoins, de faire la cuisine, de travailler, d'être dans ce rôle-là. Et en fait, Marie fait quelque chose d'inacceptable dans ce temps-là, d'impensable. Elle va au pied de Jésus avec les autres disciples. Et à l'époque, c'était réservé qu'aux hommes. Les hommes seuls avaient le droit d'être au pied du maître et d'être enseignés dans la Torah. Marie révolutionne toute une société avec ce geste-là. C'est pas juste quelqu'un qui va... Pour nous, ça nous paraît complètement innocent, normal. À cette époque-là, c'était révolutionnaire. C'était choquant qu'une femme puisse aller chercher à être enseignée dans la parole de Dieu et se mettre au pied du maître. Et qu'est-ce que Jésus a dit à Marthe ? Marie a choisi la bonne part. Comme Naomi, il y avait quelque chose à l'intérieur de ces femmes qui leur permettait d'entrer dans leur vocation véritable. En annonçant, Noémie, en annonçant la loi du Dieu d'Israël dans la vérité, avec ses exigences et en leur proposant de faire elles-mêmes leur choix, Noémie témoignait de la différence entre son Dieu et celui qui était le subjugueur et celui qui asservissait. Naomi n'a pas subjugué ses belles-filles. Elle leur a dit la vérité. Elle a été claire, sans détour. Oui, suivre Jésus-Christ aujourd'hui, c'est pas gratuit. Oui, suivre Jésus-Christ aujourd'hui veut dire quelque chose. C'est un engagement sérieux. On a à l'annoncer de façon sérieuse. Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est pas sans combat, c'est pas sans lutte, c'est pas sans faire des choix. Et Naomi, en leur proposant à ses belles-filles ces choses, elle ne les contraignait en rien. Elle leur offrait l'évangile. Elle leur offrait cette loi du rachat, cette annonce de l'évangile. Elle ne les contraignait pas par la force. Il n'y avait aucun asservissement. Elle leur offrait ce libre arbitre qui est si précieux pour Jésus-Christ. Voilà la première phase pour Noémie. On va passer à la deuxième, qui est le passage du chapitre 1, versets 19 à 22. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée ? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. » Comme elle a dû se le repasser dans la tête, le film de son retour. Tant d'années sont passées. Allait-on reconnaître celle que l'on appelait la gracieuse ? Si on reprend notre trèfle à quatre feuilles, sur le plan matériel, nous avons une information. L'Éternel me ramène les mains vides. Pauvre, sans ressources. Peut-être tout juste une bâtisse qui leur appartenait, puisque dans Ruth 4, verset 3, nous voyons qu'elle possédait un terrain encore de son mari. Sur le plan social, Noémie revient Elle a dû y penser pendant tout le trajet à pied. Comment vais-je être accueillie? Va-t-on me reconnaître? Que va-t-on dire de moi? Est-ce que je vais être accueillie ou rejetée? En plus, j'arrive avec une étrangère. Comment vivre avec le regard des autres sur soi? Les gens comprennent-ils la situation dans laquelle je me trouve en tenant compte de mon environnement, de mon histoire? Nous avons besoin de trouver en Jésus une juste estime de soi. Je vais vous poser une question qui va vous choquer. Dieu a-t-il un ego surdimensionné lorsqu'il s'appelle « Je suis » ? Vous avez déjà réfléchi à ça ? Je suis. Il se nomme toujours « Je suis ». En fait, en Jésus, j'ai le droit de dire « je suis ». Dans nos milieux évangéliques, nous savons utiliser cette phrase de Paul qui dit « ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ». Et c'est vrai. Mais où je suis, moi, si je ne vis plus? Ma chair, ma nature pécheresse, mon ego ne vit plus. Mais je ne suis pas désincarnée. Si souvent, on se sous-estime ou on se mésestime et on dénigre l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Parfois, on se surestime et il doit effectivement nous remettre à une juste place. Apprendre à vivre non plus à l'aune du regard des autres, mais à vivre dans le regard du Seigneur sur moi, en me donnant à Jésus, il sanctifie aussi bien mes qualités que mes défauts, c'est-à-dire moi, qui je suis, ma personnalité, c'est Dieu qui m'a créé, je ne suis pas désincarné de qui je suis. Il sanctifie aussi bien mes qualités que mes défauts pour m'amener à une estime de moi qui rende gloire à son nom. Je pourrais parler longtemps de ce sujet-là, mais je vais me forcer à, à continuer. C'est un sujet passionnant. À son retour, toute la ville fut émue, se demandant si c'était bien Noémie qui rentrait. Et là, elle nous donne des informations sur son état psychologique. « Je ne suis plus celle que vous avez connue, la gracieuse, mais quelqu'un qui est rempli d'amertume. » Et là, nous avons une phrase qui nous parle de quelque chose d'étonnant. « J'étais dans l'abondance à mon départ, et maintenant j'ai les mains vides. » Ne sont-ils pas partis car il y avait la famine et qu'ils n'avaient rien? Toutes ces années pour se rendre compte que la vraie richesse n'était pas là où elle croyait. Que l'ancien but de sa vie était une vanité. Vous connaissez tous ce verset. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et ça n'est pas un verset qui est vain. Avoir Jésus pour sauveur, c'est extraordinaire et nous l'avons vécu. Mais avoir Jésus comme Seigneur, tout lui donner et le laisser diriger ma vie. C'est ça la pensée de Dieu pour nous. Et c'est ce que Noémie est en train de comprendre. Quel est son état spirituel? Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance, mais l'Éternel me ramène les mains vides. L'Éternel s'est prononcé contre moi. Le Tout-Puissant m'a affligé. Waouh ! Quelle vision, quelle connaissance de son Dieu. Il y a deux noms de Dieu. Le premier, c'est El Shaddai, le Tout-Puissant. Celui qui fortifie, qui est le Tout-Suffisant. Qui peut tout, même engendrer quand cela n'est plus possible. Celui qui juge en s'appesantissant sur l'homme pour le faire porter encore plus de fruits. Dans l'histoire de Job, c'est le nom du Tout-Puissant qui s'appesantit sur Job pour lui faire porter plus de fruits. L'autre nom, c'est l'Éternel, celui qui est le Seigneur, qui a décidé de me ramener les mains vides et de se prononcer contre moi. Terrible constat sur sa vie. La confession publique de son péché. Mais elle a décidé de vivre sans façade, dans la transparence, sans se mentir, ni à elle, ni à Dieu, ni aux autres. Nous voyons là une femme courageuse qui affronte la réalité sans détour. Que ce soit au moment de notre conversion à Jésus ou alors dans les différentes étapes de notre existence avec lui, il est bon d'être amené à cette étape, parce que Jésus nous dit « c'est la vérité qui rend libre ». Sa confession de qui est son Dieu est révélatrice aussi d'un Dieu juste. Oui, le salaire du péché a un prix. La troisième partie nous donne la suite des événements. On va prendre chapitre 2, 17 à 23. Elle glana, Ruth est allée glaner dans le champ jusqu'au soir et elle battit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé ?» « Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille « Qu'il soit béni de l'Éternel qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. « Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. « Il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. » Ruth la Moabite ajouta, « Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » C'est Ruth qui a pris l'initiative d'aller glaner et Naomi lui dit, « Va ma fille. » Et là, il se produit un miracle. Ce Tout-Puissant qui s'appesantissait sur elle devient celui qui est le Tout-Suffisant. Celui qui est le Seigneur, qui décide des choses de sa vie, devient le miséricordieux. Elle découvre son amour. La grâce, c'est l'association de la justice et de l'amour. Si Dieu n'était que juste, alors oui, la mort serait notre seul salaire. Si Dieu n'était que amour, alors tout serait permis. Je vais vous donner un exemple vécu personnellement. Alors, je n'ai pas trouvé de corde. Imaginez que c'est une grosse corde. Je vous laisse aller votre imagination. On a vécu au niveau familial, il y a des années, des événements très douloureux. Et j'étais tellement mal aussi avec des regards jugeants et je souffrais tellement. Et un soir, j'ai sorti ma petite chienne et je criais à Dieu, j'étais en larmes. Et Dieu m'a donné une image. Il m'a dit, voilà, je me voyais dans une rivière avec beaucoup de flots et je voyais quelqu'un qui était en train de se noyer et qui, au secours, au secours, au secours, et qui tendait le bras. Et le Seigneur me dit, voilà, moi, au-dessus de l'eau, vous imaginez l'eau, très haut, il y a ma loi. Il y a aussi parfois les exigences de beaucoup de personnes. Et c'est vrai que ma loi, elle est juste et elle est bonne. Mais quand on est dans l'eau en train de se noyer et qu'on essaye d'attraper cette loi, on n'y arrive pas. Et souvent, des personnes disent, mais allez, saute, saute, va encore plus haut, allez, essaye, fais des efforts pour t'améliorer. Et le Seigneur me dit, tu vois, moi je prends la même loi, mais je la laisse tomber. Un bout, je la tiens, mais l'autre, je l'amène à la hauteur de la main de la personne qui se noie. De cette façon, la personne peut la saisir. Et après, c'est moi qui relève et qui ressort. Et j'ai trouvé que c'était une tellement belle image de la grâce de Dieu. On lisait au début, la loi a été amenée par Moïse et elle était bonne, mais elle était là pour qu'on se rende compte qu'on ne peut pas l'atteindre. Il a fallu que cette loi incarnée, vécue, complètement accomplie par Jésus-Christ, puisse venir à notre hauteur pour qu'on puisse se saisir de lui et que lui puisse nous élever dans ses hauteurs à lui. Et ça m'a fait tellement bien ce soir-là. Mon cœur a tellement été consolé. Pour Naomi, non seulement son Dieu pourvoit à leurs besoins matériels, mais il met sur leur route un sauveur, celui qui a le droit de rachat. Tout comme il a su mettre sur notre route celui qui nous a rachetés, ou qui veut encore te racheter si tu ne l'as pas encore connu, comme le racheteur de ta vie, c'est-à-dire Jésus. Il est bon qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Enfin, elle reconnaît que la terre de Bethléem est celle où il faut rester. Elle a fait l'amère expérience d'aller voir ailleurs, si c'était mieux. Dans la quatrième partie, je vais essayer d'accélérer. J'arrive au bout. Chapitre 3, versets 1 à 5. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. On ne va pas lire la suite, on va raccourcir un peu. En fait, Naomi explique à sa belle-fille exactement le mode d'emploi de ce qu'elle doit faire avec une précision étonnante. Naomi a connu un Dieu qui juge, elle a connu un Dieu miséricordieux, de grâce et qui sauve et dont la vérité l'a rendue libre. Maintenant, elle a à mettre sa foi en pratique et elle a à entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Elle les avait enseignées, ces deux belles filles, sur l'exigence de la loi du rachat. Maintenant, il s'agissait d'entrer dans des choses pratiques. Et Dieu l'équipe pour cela. Lorsque Dieu nous fait entrer dans notre appel, il utilise nos dons naturels, celui dont il nous a dotés depuis toujours. Mais il nous baptise aussi du Saint-Esprit pour recevoir des dons surnaturels qui vont confirmer ce chemin. En l'occurrence, ici, en relisant la manière, le mode d'emploi de Noémie, on se rend compte qu'elle a utilisé son bon sens, sa capacité de réflexion, la connaissance de son environnement, bien que ce ne soit pas mentionné, elle connaissait sa culture. Mais nous pouvons supposer aussi qu'elle a reçu un don de sagesse pour savoir comment s'y prendre, parce que c'était tellement pointu, tellement précis. Et elle se positionne, elle, à son tour, avec autorité. Sa foi est une ferme assurance des choses qu'elle espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous pouvons voir que c'est vraiment devenu une femme de Dieu. La conclusion de cette histoire, nous la trouvons au chapitre 4, et ce sont les femmes du village qui vont donner témoignage. Elles sont certainement émues pour la raison non seulement de ce qu'est devenue Noémie, mais elles ont vu la gloire de Dieu au travers de la vie de Noémie. Ses besoins fondamentaux ont été comblés et son environnement aussi. Et l'écho de cette histoire retentit jusqu'à nous aujourd'hui, puisque nous sommes au bénéfice de la foi de cette femme, puisqu'elle fait partie des ancêtres de Jésus. Alors, si nous reprenons le titre de cette rencontre, pouvons-nous dire que Noémie peut recevoir le prix du meilleur second rôle ? Et je vais vous choquer, parce que beaucoup vont dire oui, et bien moi je vais vous dire non. Parce que sans Noémie, il n'y aurait pas eu de Ruth. Et pensez-vous que dans le royaume de Dieu, en Christ, il puisse y avoir des seconds rôles ? Profondément, je crois que en Jésus-Christ, il n'y a que des premiers rôles. Il y a tout simplement le rôle de chacun. Il y a quelque chose que nous avons de la peine à entendre. Nous sommes uniques. C'est difficile d'être unique parce qu'on peut se comparer à personne. Le seul modèle que nous pouvons avoir, c'est Jésus-Christ. Notre culture, notre société, notre mentalité et même notre milieu ecclésial nous assignent une place sous forme de hiérarchie. Mais en Christ, il n'y a que des premiers rôles. Il n'y a pas d'autre médiateur entre le Père et moi que Jésus-Christ. Dans la parabole des talents, Jésus parle qu'il donne à l'un cinq, à l'autre deux, à l'autre un talent. Mais ce qui est important pour Jésus, ce n'est pas la quantité de ce qu'il donne, c'est ce que l'on en fait. Et c'est là que j'ai la responsabilité. Et le fait d'avoir tous un premier rôle n'enlève en rien le respect que nous devons au rôle de chacun. Nous voyons qu'à un moment, c'est sa belle-fille qui a pris l'initiative d'aller glaner. À un autre, c'est Noémie qui a dirigé sa belle-fille. Cela n'empêche pas la soumission mutuelle. En Christ, nous avons la liberté d'être chacun dans le rôle que Dieu nous assigne. Et c'est forcément un premier rôle. Alors, si aujourd'hui, tu n'arrives pas à concevoir que Dieu te place avec un premier rôle, je pense qu'il faut te replacer devant lui et te reconsidérer dans cette estime de soi, dans l'œuvre que Christ a fait dans ta vie, dans les plans et les projets qu'il a pour toi. Nous avons chacun un premier rôle, parce que nous sommes uniques. Amen.